Chapitre 21. Titi avait lancé un appel radio d'urgence à l'état-major. Une ambulance en provenance de l'hôpital général d'Orsay, à une dizaine de kilomètres de là, n'allait pas tarder à arriver, ainsi qu'une équipe de l'identité judiciaire. Le chef de groupe défonça le cadenas du portail à coups de barre de fer, puis essoufflé, ouvrit les battants en grand afin que les véhicules puissent pénétrer dans la cour. Dans la foulée, il rejoignit le procédurier et Serge Amandier, qui lui envoyait des signaux lumineux depuis l'arrière de la porcherie. Charcot et Florence, eux, étaient toujours auprès de Delphine, à l'intérieur, munis de la lampe du glaive. « Viens voir, c'est pas fini !» souffla Amandier. « Je crois que ce qu'a vécu cette femme est totalement inhumain !» S'enfonçant dans la boue, ils marchèrent entre le mur d'enceinte et la façade arrière du bâtiment. La bruine avait cessé, mais le vent cinglait, et Titi se demanda comment la jeune femme avait pu résister à un tel froid. Combien de temps aurait-il tenu, lui, presque nu, dans cet endroit sordide ? Serge pointa du doigt une longue et solide caisse en bois, ainsi qu'un trou profond d'environ un mètre, aux mêmes dimensions que la caisse. Une pelle gisait à côté d'un tas de terre. « Aucun doute, » expliqua Amandier. « Elle a été enterrée vivante. Regardez. On l'a enfermée dans ce cercueil de fortune. On a cloué le couvercle, puis on l'a plongée dans le trou. Ensuite, on l'a ensevelie avant de la ressortir je sais pas quand. » Le glaive vissa un flash sur son réflexe et prit des photos. Titi s'accroupit et éclaira les parois du coffrage. Serge, quant à lui, fulminait. « Si un jour j'ai ce type en ligne de mire, je le tue. Je lui loge une bastos entre les deux yeux sans la moindre hésitation. » Son supérieur resta là, immobile. Il s'imagina cloîtré là-dedans, incapable de bouger. Il entendit les pelletés s'écraser sur le bois, la terre s'infiltrer dans les interstices des planches, alors que les ténèbres engloutissaient la lumière du jour, accompagnées du froid et de la peur de mourir. Pourquoi Delphine n'avait-elle pas gratté les parois jusqu'à y imprimer la marque de ses ongles? Avait-elle été droguée? Au bout de combien d'heures étouffait-on dans un truc pareil? Combien de minutes avant de devenir fou? Comme son second, il avait la haine, une brûlure qui lui ravageait les entrailles. Face à cette grande caisse, il se sentit impuissant, inutile. Certes, il avait retrouvé Delphine, mais parce que le tueur l'avait voulu. C'était lui, le maître du jeu. Tandis que le glaive faisait ses constatations, Titi et Amandier retournèrent à l'intérieur de la porcherie. Florence était assise près de la victime. Charcot l'avait emmitouflé dans son blouson et à présent il tremblait sous sa chemise et son damar. La jeune femme était hagarde, le regard inerte, fixé sur le mur devant elle. Le froid lui avait craquelé les lèvres, les os de ses poignets étaient saillants. De larges plaques rougeâtres marbraient la peau de ses mains et de son cou. Franck s'éloigna un instant pour rejoindre ses deux collègues. « Elle ne parle pas, elle n'a aucune réaction quand on lui pose une question. Elle est consciente ?»« Oui, mais c'est comme si elle nous entendait pas. » Il les emmena dans la stalle située en face, d'où elle était venue, là où traînaient des emballages de nourriture, des bouteilles d'eau vide, des touffes de cheveux blonds. Quelqu'un ici la nourrissait et lui rasait la tête ainsi que les sourcils. Il faudra voir si... Enfin, si c'est le cas aussi au niveau du sexe. Je veux dire, est-ce qu'on lui a rasé les parties intimes? Là encore, j'ai l'impression qu'on l'a privée de ses attributs féminins. Non pas en la brûlant, mais... Sans terminer sa phrase, Charcot se dirigea vers un recoin où il avait déniché une mallette noire. Il y a autre chose. Dedans, divers godemichets en caoutchouc, en bois, en métal, de différentes tailles. Un véritable arsenal. Je les ai comptés, il y en a 15. L'enfoiré. Franck referma la mallette. Elle n'a pas de traces indiquant qu'elle ait été ligotée, ajouta-t-il. Elle était libre de ses mouvements, d'appeler au secours aussi. Et pourtant, elle est restée ici, allongée au fond d'une porcherie sinistre. Titi repensa au rapport du légiste, au fait que leur victime de Saint-Forgé ne se soit pas débattue malgré la douleur. Probable qu'elle était droguée jusqu'à l'os. Elle présente les mêmes plaques sur la peau que le cadavre X. On a dû lui inoculer le même type de produit. Et il n'y a pas que des trucs sexuels, Shark. On l'a enterrée vivante. Il y a un cercueil et un trou juste là, de l'autre côté du mur. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? Franck voyait pour la première fois son chef fendre l'armure. Lui qui gardait le contrôle en permanence, il paraissait ébranlé. Charcot aussi accusa le coup pendant que ses coéquipiers rejoignaient Florence. Titi avait raison. Qu'est-ce qui justifiait un tel acharnement ? L'espace de quelques secondes, il se dit que tout ceci n'était qu'un cauchemar. Il ouvrit ses paumes devant lui, sentit les pulsations dans ses veines, se concentra sur sa respiration. Non, son cauchemar, c'était la réalité. Il se retourna. Titi se tenait accroupie devant la victime. Elle secouait la tête, agitait brusquement ses épaules comme si un insecte invisible la harcelait. Florence ne disait rien, stoïque, mais il était évident qu'elle luttait pour ne pas craquer. « On va vous sortir d'ici, des gens vont prendre soin de vous », souffla le chef d'une voix rassurante. « On va retrouver celui qui vous a fait ça et il croupira en prison jusqu'à la fin de ses jours. » Delphine ne réagit pas, ne le regarda même pas, et Titi se dit qu'elle n'avait pas plus de volonté qu'un morceau de bois. Pourquoi le méticuleux avait-il pris le risque de la laisser en vie? Un bruit de moteur se fit entendre, l'éclat bleuté d'un gyrophare perça l'obscurité. Un médecin arriva, secondé par deux infirmiers qui portaient un brancard. Titi résuma la situation. Quand ils découvrirent la victime dans un tel endroit, les hommes n'en crurent pas leurs yeux. Florence proposa de les accompagner à l'hôpital. Delphine fut installée sur le brancard et chargée dans le fourgon. Charcot se rendit jusqu'à l'ambulance et attendit qu'on lui rende son blouson. À l'arrière du véhicule, sa coéquipière apprécia la chaleur réconfortante du chauffage. Delphine ne renouerait certainement jamais avec son existence d'avant, mais au moins, elle était vivante, et elle pourrait leur raconter ce qui s'était passé, les aider à traquer le diable. Alors que le moteur ronronnait, un infirmier déplia une couverture de survie. Le médecin ôta doucement le blouson et glissa le pavillon de son stéthoscope sous la toile qui servait de vêtement à sa patiente. Il sentit une rugosité sur la peau, au-dessus de la poitrine. Des cicatrices? Je vais vous débarrasser de ça. Sous l'œil de Charcot et de Florence, il s'empara de ciseaux à bout courbé dans un tiroir, coupa les cordelettes et écarta les pans de la toile. Un mot avait été gravé sur le torse squelettique de Delphine Escrémieux. « Qu'est-ce qui lui a fait cet animal ?» grogna le médecin. Charcot s'approcha pour mieux voir. Les lettres paraissaient en relief, incrustées dans la chair par le feu. Vraisemblablement l'œuvre d'une lame chauffée à blanc. Le bourreau avait marqué Delphine telle une bête. Le flic essaya de garder son sang-froid, mais à l'intérieur, il bouillait. « Je m'occupe d'informer les collègues, vous pouvez partir !» lança-t-il en récupérant son blouson. Il se précipita vers les trois hommes de son équipe, qui inspectaient toujours le fond du bâtiment. « Son rébus continue » haleta-t-il. « Ce salopard lui a imprimé le mot « puits » sur le torse. »